Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 14. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Jean-Philippe, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Jean-Philippe, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Jean-Philippe, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 14 dans le récit de l'Évangile de Marc?
Oui, ce chapitre commence avec la fête juive de la Pâque que Jésus et ses disciples célèbrent ensemble. Puis les événements se précipitent vers la crucifixion de Jésus. Mais tout d'abord, Jésus conduit ses disciples dans le jardin de Gethsémané. Là, il prie, agonisant devant la douleur du sacrifice qu'il va offrir pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, notre récit commence avec l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Cédons la parole à Sandra pour la lecture de Marc, chapitre 14, les versets 43 à 52.
Il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des douze, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde. » En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus. Il lui dit « Maître !» et l'embrassa. Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi ? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi, pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu.
Merci Sandra. Voilà que les opposants de Jésus viennent de nuit pour l'emmener de force devant un tribunal. Ce récit est parmi les plus tristes relatés dans les Écritures.
C'est vrai, Yann. Les hommes affichent leur mauvais côté en sombrant dans le mal. Notons la complicité des chefs religieux qui, n'osant pas arrêter Jésus en public, le font sous le couvert de la nuit. Leurs intentions sont méchantes, injustes, cruelles. Notons aussi la trahison de Judas, la violence de Pierre et la lâcheté des disciples qui prennent la fuite.
Revenons quelques instants sur Judas. Pourquoi a-t-il agi ainsi?
Nous ne pouvons pas en être sûrs. Judas était un disciple. Jésus l'a lui-même choisi comme apôtre. Et pourtant, Judas finit par livrer Jésus entre les mains de ses ennemis pour une récompense financière de 30 pièces d'argent. Judas avait-il espéré que Jésus mènerait une révolution violente et était-il déçu par l'enseignement pacifiste de ce dernier? Judas voulait-il provoquer une crise qui obligerait Jésus à répondre par la force? Ces scénarios sont tout à fait plausibles, mais nous ne pouvons pas en être certains.
Puis, Marc relate que l'un des disciples a tiré son épée et qu'il a ensuite coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre.
Oui, nous apprenons dans l'évangile de Luc que c'est Pierre qui a commis ce geste. Nous y apprenons aussi que Jésus le lui a reproché et qu'il a guéri l'homme blessé. Jésus a toujours enseigné « Aimez vos ennemis ». Et en cet instant, Jésus est un modèle d'amour pour ses ennemis. Entouré d'hommes méchants, Jésus ne voulait pas avoir recours à la violence. Mais mieux encore, il a compassion de son ennemi au point de guérir le serviteur mutilé.
C'est quand même remarquable, un exemple extraordinaire. Puis, vers la fin du récit lu, Nous apprenons qu'un jeune homme assiste à la scène qui se déroule et, interpellé par les gardes du temple, y prend la fuite, tout nu.
Oui, cet incident est un peu mystérieux. Les commentateurs pensent qu'il s'agit de Marc, l'auteur de l'évangile, et que ce dernier voulait inclure ce détail autobiographique. Nous ne savons pas si Marc était disciple à l'époque ou bien s'il se trouvait dans le jardin par hasard. Cette nuit-là, il prend la fuite, comme beaucoup d'autres. Quand l'épreuve frappe, on manque si facilement de courage et la lâcheté prend le dessus.
C'est malheureusement vrai, mais qu'en est-il de Jésus ?
Jésus se montre différent. La haine et le mal le visent. Il semble régner, triompher, mais Jésus demeure bon, serein, déterminé et courageux. Il n'a pas recours au mal, mais comme je l'ai déjà mentionné, il continue à pratiquer le bien. De même, il ne baisse pas les bras, il ne se montre pas lâche. Il sait qu'il est sur le point de subir des événements cruels, mais il reste maître de ses sentiments et de ses actes. Jésus connaît les Écritures contenues dans l'Ancien Testament. Il sait que durant la nuit qui approche, les prophéties vont se dérouler, les bons desseins de Dieu s'accompliront et le mal apparent ne triomphera pas. C'est pourquoi Jésus fait face à l'épreuve avec courage.
Mais Jean-Philippe, que pouvons-nous apprendre de ce récit ?
Tout d'abord, examinons nos propres cœurs et ne jugeons pas les disciples, mais plutôt admettons qu'à leur place, nous aurions probablement agi de la même manière. C'est souvent quand l'épreuve frappe que le mal qui réside dans nos cœurs monte à la surface et s'exprime de façon diverse, que ce soit par la colère ou la vengeance, par les paroles blessantes ou par les gestes violents, ou bien que ce soit par la lâcheté et la fuite face à des situations difficiles ou par l'abandon de la foi. Cependant, je ne voudrais pas m'attarder sur le mal qui remplit nos cœurs, mais plutôt introduire une perspective d'espoir.
Et quelle est-elle ?
Les disciples ont vécu la peur et l'échec, mais pour la plupart d'entre eux, leur cheminement ne s'est pas arrêté là. Pierre a eu recours à la violence, et plus tard dans la nuit, il allait renier son maître. Cependant, par la suite, il allait devenir un prédicateur courageux et l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Si le jeune homme qui a pris la fuite était, comme nous le pensons, Marc, nous savons que par la suite, il a écrit un évangile destiné à instruire le monde sur Jésus. Les autres disciples aussi ont abandonné Jésus, mais à l'exception de Judas, ils sont tous revenus à Dieu. Ils sont tous devenus des témoins de sa résurrection et des piliers dans l'église naissante. C'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus que nos mauvais agissements et nos échecs peuvent être pardonnés. C'est grâce à la mort et à la résurrection de Jésus que nous pouvons rejeter notre vie dissolue pour commencer une nouvelle vie avec lui. C'est grâce à sa mort et à sa résurrection que nous pouvons vivre des transformations dans notre façon d'agir et trouver le courage d'être fidèles à Dieu. Dans les moments sombres et obscurs de notre vie, nous pouvons sauter comme dans un abîme de souffrance et de malheur. Cependant, Jésus, grâce à son œuvre sur la croix, descend nous rencontrer au fond de cet abîme et il nous en retire pour nous placer sur un rocher solide.
Ce que vous dites me rappelle les paroles du psaume 40.
Effectivement, à présent Sandra va nous lire les 4 premiers versets de ce psaume.
J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu.
Merci Sandra. Pataugé dans la boue, au fond d'un trou profond et très pénible. Nos mauvaises expériences et nos échecs peuvent nous plonger dans des sentiments négatifs. Nous pouvons nous sentir sales et pollués à cause de nos péchés. Nous pouvons nous sentir piégés, enfermés par nos échecs. Nous pouvons nous sentir incapables et impuissants dans l'impossibilité de sortir par nos propres moyens du trou que nous avons creusé. Pourtant, si nous nous tournons vers Jésus, si nous mettons notre espérance en lui, nous pouvons trouver le pardon et la délivrance. Il écoute nos cris et il vient vers nous pour nous sauver et pour affermir nos pas.
Merci Jean-Philippe pour cette note d'espoir formidable. Elle encourage toute personne courbée sur un point d'échec et de culpabilité. Oui, Jésus peut tout changer. Cependant, vous avez dit que le disciple Judas n'a pas suivi le même cheminement que les autres disciples. Pourquoi ?
Nous apprenons dans l'évangile de Matthieu que Judas a subitement regretté ses actes. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, il s'est suicidé en se pendant. J'aime à penser que Jésus aurait pu pardonner même un geste aussi grave que la trahison de Judas. Mais ce dernier, du fait de l'endurcissement de son cœur et de son désespoir, n'a même pas pensé à se tourner vers Dieu. Ou bien, en constatant l'ampleur de son échec, il n'a pas osé se tourner vers le Seigneur. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé dans le cœur de Judas, mais il représente pour nous un avertissement. Jésus offre sa grâce, il nous offre le pardon de nos fautes, même des plus graves. Jésus peut nous relever, quelle que soit la nature de notre échec, dans notre lutte contre le péché. Il veut nous accompagner sur le chemin de la restauration. Mais il faut se tourner vers lui pour recevoir cette grâce. Si comme Judas, nous entretenons de la rancune ou de l'amertume envers Jésus parce qu'il ne nous répond pas comme nous voulons à nos attentes et à nos prières, alors notre cœur ne peut que s'endurcir de plus en plus et nous deviendrons aveugles à son amour pour nous. Dans ces conditions, nous nous priverons de la grâce de Jésus-Christ et nous finirons mal.
Oui, l'histoire de Judas est bien triste et tragique. Elle représente un avertissement, comme vous l'avez dit. Mais Jean-Philippe, comment voulez-vous conclure notre discussion ?
Jésus savait que tout se passait ainsi pour accomplir les Écritures. Il savait que par ces moments sombres, les bons desseins de Dieu se réalisaient. Il convient donc d'écouter les Écritures et de nous référer à quelques extraits d'Ésaïe, chapitre 53, qui nous rappellent les souffrances du serviteur de Dieu et pourquoi il fallait que les événements se déroulent ainsi.
Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.
Merci. Tout ce que Jésus a subi cette nuit-là, il l'a subi à notre place. Il l'a subi pour obtenir le pardon de nos péchés. Il l'a subi pour obtenir notre salut. Il l'a subi pour pouvoir nous retirer de l'abîme. Nous ne devons jamais l'oublier. Et ces gestes accomplis à notre place et pour nous doivent être constamment l'objet de notre reconnaissance et de nos actions de grâce.
Merci Jean-Philippe. Et surtout, merci à Jésus, notre merveilleux Sauveur.
Jean-Philippe sera de retour la prochaine fois pour poursuivre ses réflexions sur cette nuit obscure où Jésus a subi l'injustice et la brutalité des hommes. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.